Je vous invite à prendre vos Bibles dans le psaume 46. Le psaume 46, ça va être le tremplin de notre méditation ce matin. Et donc le psaume 46, c'est un psaume dans lequel les fils de Corée louent Dieu pour sa capacité de nous protéger. C'est une provision. Le psaume 46, et je lis à partir du début. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un soutien qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Ce chant des choristes, fils de Corée, eh bien, fait référence à Dieu en l'appelant Dieu, en l'appelant l'Éternel, en l'appelant le Très-Haut, et nous trouvons cela très normal. Mais il se peut que cela nous surprenne qu'il appelle Dieu par deux fois, il l'appelle le Dieu de Jacob. Parce que il y a une bonne partie de la vie de Jacob qui n'était pas vraiment sous le contrôle de Dieu, dans le sens que où il s'y soumettait. Il a plutôt vécu par la ruse que selon sa confiance en Dieu. Et dans la Bible, nous trouvons 14 références au Dieu de Jacob. 14 fois, est-ce que Dieu est appelé le Dieu de Jacob? Jamais est-ce qu'il est appelé le Dieu de Moïse? Jamais est-ce qu'il est appelé le Dieu de Josué, jamais il est appelé le Dieu de Salomon, mais 14 fois appelé le Dieu de Jacob. S'il est le Dieu de Jacob, il peut être le Dieu des Jacob, tous ceux dont la vie ressemble à celle de Jacob. Et c'est là la pensée de ce matin. Nous sommes, gloire à Dieu, peut-être pas ce que nous étions. Mais ce que nous étions, c'était pas toujours extraordinaire. Mais Dieu a fait une œuvre. Et quand j'écoute les méditations, quand j'écoute les prières, et je dis, ah, Dieu a quand même fait un chemin. Parce que ce frère-là, cette sœur-là, c'était pas comme ça à l'origine quand je l'ai rencontré. Et il a changé le contenu de son cœur. Et je loue Dieu. Et finalement, ici la Bible nous présente, il nous dit Dieu est le Dieu de Jacob, ou le Dieu des Jacob. Et il veut nous encourager. Par un premier temps, je veux, dans cette étude, voir d'abord les interventions de Dieu dans la vie de Jacob. Parce que dès le début, dès le commencement, Dieu a intervenu dans la vie de Jacob, même si ça, Jacob n'a pas répondu tout de suite. Dieu avait déjà promis à Abraham que sa postérité eh bien, serait une bénédiction pour les nations. Genèse 22, verset 18. Et cette postérité que Dieu a prévue, eh bien, l'apôtre Paul nous le révèle dans Galates 3, 8, il nous dit que c'était Jésus. Cette postérité à laquelle pensait Dieu quand il a fait la promesse, eh bien, c'était Jésus-Christ qui est une bénédiction pour les nations, pas pour un peuple particulier, mais pour les nations. Ça a toujours été la pensée de Dieu. Maintenant, s'il y en a qui ont pensé autrement, ça c'est leur problème. Mais ce qui est certain, c'est que dans la pensée de Dieu, Jésus-Christ était le sauveur pour tous, et n'importe lequel. Et puis peut-être vous voulez aller dans Genèse, et on va aller doucement comme ça, on va progresser, relever les différentes interventions de Dieu dans la vie de Jacob. Abraham a eu un fils, Isaac. Vous savez, c'est quand même extraordinaire comment Dieu s'est mis dans une situation difficile. Il a choisi Abraham pour être le père de ces générations qui donneraient le Christ. Il choisit un homme dont la femme est stérile. Enfin, il a un fils. Le fils, il se marie avec une femme stérile. Éventuellement, il a deux fils, Ésaü et Jacob. Jacob a deux sœurs qu'il prend comme épouses. Les deux sont stériles. Oui, Dieu, il n'est pas gêné par la condition des hommes. Il puise en lui-même pour réaliser. Il ne puise pas en nous les moyens de réaliser ses projets. Il puise en sa propre personne la force et les moyens de réaliser ses projets. Donc nous n'avons pas à craindre. Dieu réalisera tout ce qu'il a promis. Parce que même si nous sommes défectueux, il a accompli quand même ses promesses. Alors ne perdez pas courage à cause des défauts et des manquements que vous voyez en votre propre personne. Ça ne gêne pas Dieu. Parce qu'il n'a pas besoin de mes forces pour faire ce qu'il a à faire. Il puise en lui-même. Dans Genèse 25, eh bien, au verset 21 à 26, et je lis les versets seulement, Genèse 25, à partir du verset 21 jusqu'à 25, 26. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtèrent dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquirent. Ça faisait 20 ans qu'il était marié, que lui et Rebecca étaient mariés. C'est au bout de 20 ans que Ésaü et Jacob sont nés. Ensuite, nous passons au chapitre 28, parce qu'entre-temps, les garçons ont grandi. Il y a eu dans la famille des préférences. Le père a préféré son fils aîné, Ésaü, qui était un homme de l'extérieur, un chasseur. Et la mère a préféré le petit, qui était toujours à la maison. Et Dieu avait dit à Rebecca, lui avait dit, ton second, sera celui qui aura la bénédiction et c'est lui qui sera le détenteur de la promesse. Mais le père, je ne sais pas s'il n'était pas au courant, si elle ne lui a pas dit, ou quoi, mais lui, en tous les cas, il pensait fils aîné. Et il y a un moment où, dans cette famille, ils ne font pas confiance à Dieu. Alors, Jacob utilise la ruse pour acheter ou pour inciter son frère à vendre son droit d'aînesse pour un bol de soupe. Bon, il a profité du fait qu'il est très fin. Puis ensuite, la mère et le fils vont comploter contre le père pour essayer de voler la bénédiction de l'aîné. Et alors, bien sûr, les solutions des hommes ne règlent jamais le problème, ils créent que des nouveaux problèmes. Et donc, tout d'un coup, Ésaü, il se fâche et il se dit, mais dès que mon père va mourir, moi, je vais régler la chose avec mon frère. Et donc, on apprend cela. Et alors, la mère va voir Jacob et lui dit, Jacob, je crois que ton frère, il est fâché, vraiment fâché avec toi. Donc, il vaut mieux que tu quittes la maison et que tu ailles dans la famille, dans notre territoire d'origine. Et alors, dans ce chapitre 28, Jacob est en fuite. Vous savez, c'est un homme qui n'a jamais quitté la maison. Il a toujours été près de maman, hein. Il tenait aux jupes de maman. Et là, tout d'un coup, il se trouve dans la nature, tout seul. Vous pouvez imaginer, quand on n'a jamais été dehors, on n'a jamais quitté la maison, et tout d'un coup, on se trouve à des kilomètres de maman. Et donc, au chapitre 28, versets 10 à 15, Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il en fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Je crois que moi aussi j'aurais des songes si je dormais sur un caillou. Mais bon, c'est pas le problème. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touché au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit... Donc il dit à Jacob, dans son songe, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Voilà. Un voyou pareil, Dieu lui dit... Toi, c'est toi. Tu seras, les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Comprenez que si Dieu bénit, ce n'est pas à cause de nous. Hein, parce que là, il n'y avait rien à bénir chez Jacob. Mais si Dieu a béni et a donné cette bénédiction, c'est pour accomplir son plan, sa promesse. Jacob arrive chez son oncle Laban. Bon, il tombe amoureux de Rachel, il est prêt à travailler 7 ans pour Rachel, et puis juste la nuit de noces, son oncle met Léa à la place. Et donc en Genèse chapitre 29, verset 31, eh bien... Jacob, à qui Dieu avait dit « Les nations de la terre seront bénies en toi », eh bien, au verset 31, donc 29-31, « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. » Ça veut dire qu'elle était stérile, elle aussi. Et Dieu, en voulant équilibrer la situation à la maison, la rendit féconde. Dieu intervient. Mais aussi, il est en train de réaliser son plan. Même si physiquement, naturellement, il n'y a pas ce qu'il faut pour réaliser le plan de Dieu, il le réalise quand même. À savoir, si Jacob était toujours conscient et certainement que lui pensait à carrément autre chose. Parce que dès qu'il a eu Léa, il a dit, moi, je l'aime pas, moi, je veux Rachel, et il est prêt à travailler encore 7 ans pour Rachel. Au chapitre 30, verset 27, Laban trompe Jacob combien de fois? Jacob a trouvé quelqu'un qui le ressemble, peut-être même un peu plus rusé que lui, parce que Laban réussit à tromper Jacob plus d'une fois. Et donc, au verset, chapitre 30, verset 27, eh bien, Laban est obligé de dire, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Béni à cause de toi, à cause de Jacob? Mais Jacob, qu'est-ce qu'il y avait à bénir chez Jacob? Ces deux trompeurs, deux gens qui se trompent l'un l'autre constamment, et Dieu bénit les deux. Et au verset 30 du même chapitre, car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Dieu bénit Laban à cause de Jacob. Et Jacob, c'est rien d'extraordinaire. Si vous croyez que vous êtes une source de bénédiction pour quelqu'un, ou vous avez pu encourager quelqu'un, c'est pas à cause de vous, c'est à cause de Dieu. Il n'y a aucun de nous qui avons de quoi que ce soit en nous qui puisse être une bénédiction pour quelqu'un. Si ce n'est pas quelque chose que Dieu a mis en nous qui peut être transmis. Et ensuite, Jacob passe 20 ans là, au loin. Il travaille 7 ans pour la première, 7 ans pour la deuxième, ensuite 6 ans pour les troupeaux. Il passe 20 ans là. Et maintenant, Dieu lui dit, écoute, faut que tu rentres. Parce que les choses sont en train de dégénérer. Si tu ne pars pas, les choses, ça va aller mal entre toi et Laban. Donc au chapitre 31, verset 3, l'Éternel dit à Jacob, et Dieu lui parle, alors que Jacob, c'est jamais lui qui prie, c'est pas lui qui cherche Dieu, ni rien du tout. Mais chapitre 3, il dit, l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, et dans le lieu de ta naissance, et je serai avec toi. Et il le dit à un homme qui ne le cherche pas. À un homme qui, bon, reconnaît la présence de Dieu quelque part, parce que quand il a vu le songe, il avait reconnu, il avait oint la pierre sur laquelle il avait reposé sa tête, il l'avait appelé Beth-El, la maison de El, de Dieu, de Elohim. Il savait que Dieu existait, mais bon, c'était pas, il représentait rien. Et peut-être que certains, ou même nous tous, nous pouvons penser à ces moments où, oui, c'est pas qu'on niait l'existence de Dieu, mais on vivait comme s'il n'existait pas. On essayait de se débrouiller par notre moyen, nos propres moyens, par nos forces, par notre capacité, nos connaissances. Ça marchait tant bien que mal. Alors que certainement que si ça réussissait, c'était parce que Dieu faisait réussir, et c'était pas à cause de nos capacités. Mais on a quand même agi comme si c'était nous qui avions les moyens. Et puis au verset 13 de ce chapitre, donc Genèse 31, Dieu encore une fois parle et dit « Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument et où tu m'as fait un vœu. » Dieu se souvient du vœu. Jacob, il avait fait ça cette nuit-là, il a eu un songe, il était un peu touché. Il a dit Dieu, son vœu c'était, si tu me ramènes chez moi, alors tu seras mon Dieu. Rendez compte, il veut faire une affaire avec Dieu. Si tu me ramènes, eh bien je serai ton Dieu, tu seras mon Dieu. Comme si c'était Dieu qui avait besoin de lui, plutôt que lui besoin de Dieu. Mais combien de fois on a parlé comme ça à Dieu aussi? Dieu, si tu me guéris, si tu me donnes du travail, Dieu, si tu me donnes une épouse, eh bien moi après, comme si c'est lui qui avait besoin de moi. Et je lui faisais une bonne affaire. Tu te rends compte si je te fais une proposition? Tu te rends compte, Dieu? Qu'est-ce qu'on peut se faire des idées? Et Dieu lui rappelle, il a dit, tu sais, je suis le Dieu à qui tu as fait un vœu, et je me souviens de ce que tu as promis. Beaucoup d'hommes oublient leurs promesses à Dieu. Dieu n'oublie pas. On lui promet quelque chose parce que lui, quand il fait une promesse, il s'en souvient. Et il s'attend que ceux qui lui promettent quelque chose, ils s'en souviennent aussi. Et vous savez comment c'est quand quelqu'un vous promet quelque chose, vous comptez dessus, puis ça vient pas, vous êtes drôlement déçu, n'est-ce pas? Ça fait mal. Mais Dieu, c'est un Dieu, il n'est pas fait de pierre, hein, notre Dieu. C'est un Dieu vivant. Il ressent les choses. Et il peut être déçu aussi. Au chapitre 31, verset 29... Ici, Jacob prend ses deux épouses, il prend ses biens, et puis il profite du fait que Laban soit absent, en train de tondre ses moutons, et alors il en profite pour disparaître. Et bien sûr, Laban, il est sur son territoire, il a ses hommes, Jacob c'est l'étranger, et Dieu lui... C'est-à-dire, Laban pouvait régler l'affaire très rapidement. Mais Dieu, au verset 29, eh bien, Dieu lui parle. Verset 29, il dit, c'est Laban qui dit, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Laban était en train, il allait rattraper Jacob. Et puis, il lui a lui apprendre une petite leçon. Et entre-temps, Dieu intervient et lui dit, écoute, tu ne touches pas. Tu ne le touches pas. Tu fais ni du bien ni du mal. Reste neutre, je ne demande pas de faire du bien, mais fais pas de mal. Jacob, il ne sait pas tout ça. Jacob, il est pour rien. C'est Laban qui lui apprend, il dit, Dieu m'a dit de ne pas toucher, hein, sinon je pouvais. J'ai dans les mêmes moyens de le faire. Dieu protège Jacob alors que c'est un filou du matin au soir. Verset 42 de ce même chapitre. Jacob est en train de dire à Laban, il a dit, tu sais, tu as 10 fois, tu as changé le salaire. Tu as fait un arrangement et tu as vu que c'était pas dans ton intérêt, tu l'as annulé et tu as fait autre chose. 10 fois! Et verset 42 dit, si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Là, Jacob, il commence un petit peu, hein, c'est un fruit qui commence tout juste à prendre des couleurs. Tout juste, comment dire, mais tu sais, si c'était pas pour le Dieu de mon père, écoute, j'aurais rien du tout là, tu m'aurais envoyé les poches vides. Aussi démuni que quand je suis arrivé. Il commence à reconnaître que c'est quand même, Dieu est en train d'agir. Vous savez, ça lui prend du temps là, ça fait 20 ans. Et qui commence tout juste à reconnaître que peut-être Dieu intervient dans sa vie. Vous dites, mais c'est terrible. Hein, oui. Comprenez? Dieu dit, je suis le Dieu de Jacob. Hein? Et si vous commencez à voir, peut-être ça fait pas 20 ans pour vous, mais si moi j'ai vu à des moments que hein, j'avais un peu cette attitude-là, Dieu ne nous renie pas. Et ensuite, chapitre 32, les versets 1 et 2, Jacob est en train de rentrer chez lui. C'est pas facile de rentrer chez lui, parce qu'il est en train de fuir Laban, ça va plus. Mais vous savez qui se trouve devant lui? C'est son frère Ésaü. Hein, il quitte la poêle, il sort de la poêle pour se jeter dans le feu, dans un sens. Hein, c'est pas drôle. Il part, mais c'est pas réglé. C'est pas seulement une question de partir. Et donc au début du chapitre 32, les versets 1 et 2, il dit « Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. Et en les voyant, Jacob dit « C'est le camp de Dieu ». Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Il est en train de partir. Qu'est-ce qu'il y a ? Dieu envoie des encouragements. Et dire « Je te suis ». Je te vois, je vois ton progrès, je suis avec toi. Et Jacob, il est en train de là, il voit ça, mais en même temps, il est en train de penser à tête, comment je vais faire? Comment je vais rencontrer Ésaü? Comment je vais le calmer? Comment je vais régler cette situation? Et il est préoccupé. Oui, d'accord, Dieu, tu es gentil, tout ça, oui, mais bon, faut que je trouve une solution. C'est pas humain, ça? Et alors, on arrive au chapitre 32, les versets 9 à 12. Parce que, entre-temps, eh bien, Jacob a appris que Ésaü est en train de venir avec des hommes. Alors là, ça va pas. Il n'y a pas rien qu'à Ésaü, mais il vient avec 400 hommes. Et lui, comment il va faire? Alors là, verset 9, Jacob dit, ah, c'est la première fois qu'on le trouve en train de prier. Et c'est parce qu'il se trouve, il y a le marteau au-dessus et il y a l'enclume en dessous. Et alors, tout d'un coup, il se met à prier. Hein? Il y en a peut-être quelques-uns qui disent « Ah, ouais, je connais. J'ai déjà fait ça avec Dieu aussi. » Jacob dit « Dieu de mon père. » Il n'a pas dit « Mon Dieu. » Il dit « Dieu de mon père. » Parce qu'il a dit « Moi, je dois rien et je ne vais pas dire « Mon Dieu. » Non, non, c'est pas vrai. « Dieu de mon père. » Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans le lieu de ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Il commence à le reconnaître. Il dit, tu as fait des bonnes choses. Pour la première fois, il devient reconnaissant. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Il dit, quand je suis parti, j'avais qu'un bâton. Quand je reviens, j'ai deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. Car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien. Je te rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant, qu'on ne saurait le compter. On dit, mais après tout ce que tu as fait, tu oses prier. C'est pas ça le problème. Celui qui vous dira, écoute, prie pas à Dieu, tu es trop méchant, tu es très mauvais, tu l'as méprisé trop de fois, écoute, c'est pas quand tu es dans la situation, tu sais plus où aller, que tu pries. Écoutez, vous pouvez prier à n'importe quel moment. Que vous soyez dans le ventre d'un poisson, vous pouvez prier. Que vous soyez entre le marteau et l'enclume, comme Jacob, vous pouvez prier. Peu importe ce que vous avez pu faire, combien vous avez méprisé Dieu, combien vous avez été ingrat, peu importe, Dieu est un Dieu de miséricorde et il nous reçoit toujours. Et Jacob peut prier. Un comme lui, il ose prier. Oui, il peut prier. Notre Dieu est le Dieu de Jacob. Et vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette situation, il y a Ésaü. Ésaü, il a ses problèmes, il a un cœur, il a tout ça. Et puis il y a Jacob. Mais Dieu ne s'occupe pas, Ésaü, ce n'est pas son problème. Il dit, moi je m'occupe de Jacob. Il dit, mais tu sais, essaye d'écarter. Il dit, moi, Ésaü, c'est pas mon problème. C'est toi. Vous savez, des fois, combien de fois on a prié à Dieu, dit, Dieu, écoute, regarde, tu as vu ça, les gens qui me font du mal, les gens qui me parlent, cette situation, le patron, et le travail, la nationalité, les papiers, la préfecture, wow. Il dit, Seigneur, tu vois. Il dit, ça ne m'intéresse pas, c'est toi qui m'intéresse. C'est dans ton cœur que je veux travailler. C'est avec toi que je veux traiter. C'est toi que j'aime. Je veux que tu te tournes vers moi. Je veux être ton Dieu. celui sur lequel tu t'appuies. Et donc, Ésaü, lui, il avance comme prévu. Il fait ce qu'il a à faire, Dieu ne gêne pas, il n'y a rien pour le déranger, ça marche. Dieu est en train de traiter avec Jacob. On arrive au chapitre 33. Et au verset 20, et remarquez, c'est la première fois. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Elohe Israël, qui veut dire le Dieu d'Israël. Il y avait avec Laban au chapitre 31, il avait offert une offrande. Mais l'offrande, c'était juste un contrat entre lui et Laban. C'était une manière de dire, écoute, voilà la limite, toi tu viens jamais au-delà de ce point, moi je vais jamais au-delà de son point, on se croise pas, comme ça on fait la paix. Bon, c'est une manière de faire la paix. Mais en tous les cas, mais ça c'était pas une adoration de Dieu. Ici, c'est la première fois depuis que Jacob a oint de l'huile sur le rocher où il a fait le songe, c'est la première fois qu'il dresse un autel à Dieu. 20 ans que Dieu est après lui, 20 ans que Dieu le cherche, 20 ans que Dieu le protège, 20 ans que Dieu le bénit. Enfin, il construit un autel. Et puis, finalement, Jacob avance encore, il arrive jusqu'à Luz, où, justement, l'endroit où il a dressé la pierre sur laquelle il y a oint, qu'il a appelé Bethel. Et Jacob revient à ce point-là. Et au chapitre 35, au verset 1, donc 35, verset 1, Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel à l'Éternel qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. » Un grand détour pour revenir au même endroit. Il a dit, tu viens là, cet endroit que tu appelles la maison de Dieu, eh bien c'est là que tu vas demeurer. C'est là où tu dois vivre. Ça, c'est ton lieu. C'est là où tu devrais être. Tout ça, c'était du temps perdu. Mais je t'ai préservé quand même pour que tu viennes là. La boucle, elle est fermée par la grâce de Dieu. Parce que si c'était pas pour Dieu, Jacob, il n'aurait jamais fermé cette boucle. Il serait jamais revenu à Bethel. Versets 6 et 7 de ce même verset, chapitre, donc 35, versets 6 et 7. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel, il appela ce lieu El Bethel, le Dieu de Bethel. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Vous savez, quelque part, il y a eu un moment dans votre vie où il y a eu quelque chose entre vous et Dieu. Mais ensuite, pas de suite. Vous savez où le retrouver ? C'est au même endroit. Je ne parle pas géographiquement. Je parle, vous revenez à cet endroit, cet endroit où dans votre vie, dans votre cœur, vous avez parlé. C'est là qu'on revient toujours. Là où l'on quittait, c'est là où on revient. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est là qu'on le retrouve, qui nous attend. Et puis chapitre 35, je lis les versets 9 à 15. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Paddan Aram et il le bénit. Et Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Entre-temps, il y avait le passage de Jabok, et là, il y avait une lutte, et Jacob a résisté, et c'est là où il dit, je te lâcherai pas que tu m'aies béni, et puis Dieu l'appelle Israël pour la première fois. Ici, à Bethel, Dieu lui rappelle, il dit, tu n'es plus Jacob, tu es Israël. C'est là seulement qu'il y a eu un changement de cœur. C'est pas à Bethel la première fois quand il était en fuite, c'est pas là où il y a eu un changement de vie. Peut-être que vous regardez à votre vie, vous dites, oh, il y a un moment, oui, je sais, Dieu m'a parlé. Et oui, mais si votre vie n'a pas montré qu'il y a eu un changement, eh bien, vous avez besoin de revenir à cet endroit-là, rencontrer Dieu et dire, Dieu, c'est maintenant. Parce que là, si Dieu a changé son nom, c'est parce qu'il y a eu un changement de cœur chez Jacob. Et ce que Dieu veut chez nous, c'est un changement de cœur aussi. C'est pas seulement quelqu'un qui fait référence à nous de temps à autre, mais il veut devenir réellement notre Dieu. Jacob est parti, et à cause de la vie qu'il a vécue, à cause de la situation à la maison et tout, il n'a jamais revu sa mère. Quand il est rentré, elle était déjà décédée. Il a retrouvé son père au chapitre 35, verset 27. Il nous dit qu'il a retrouvé son père, Ésaü. Et il a pu enterrer avec son frère Ésaü. Ils ont pu enterrer leur père. Mais vous savez, et je saute une partie là, toute la partie avec Joseph, et je vous laisse faire la même chose qu'on a fait là. Vous faites la même chose, vous continuez la même chose avec la vie de Joseph. Mais pour une question de temps, eh bien, on va aller jusqu'à la fin. Et je vous invite à regarder dans chapitre 47. Chapitre 47. Et au verset 7, il y a une petite phrase extraordinaire. Ce Jacob que nous voyons depuis quelques minutes. Eh bien, au chapitre 47 et au verset 7, finalement, Jacob retrouve Joseph. Et Joseph est dans la cour de Pharaon et tout semble bien se terminer. Et Joseph présente son père à Pharaon. Et au verset 7, il dit, Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. C'est le plus grand ou le plus petit qui bénit l'autre? C'est Jacob qui bénit Pharaon. Vous voyez, entre ce qu'on avait comme Jacob au début, et quand Dieu a fini avec Jacob, c'est autre chose. Et vous savez, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit, moi je suis le Dieu de Jacob. Tu sais, comme j'ai été avec lui, je peux être avec toi. Peut-être tu n'es pas aussi mauvais que Jacob, je suis le Dieu de Jacob. Peut-être tu es pire que Jacob, il dit, je suis le Dieu de Jacob. Moi, les Jacob, peu importe comment ils viennent, je peux être leur Dieu. Quelles sont quelques leçons que nous pouvons tirer de tout cela? Eh bien, premièrement, je vois que Dieu a choisi le pire des scénarios pour nous montrer de quoi il était capable. Il n'a pas choisi le meilleur homme qu'il y avait parmi les hommes. Il a choisi le plus tordu pour dire, voilà ce que je peux faire. Dieu a choisi le pire des scénarios pour nous démontrer de quoi il était capable. Et ça, c'est pour notre encouragement. Il nous montre par là combien il est prêt à faire pour que son plan se réalise. Dieu, comme on dit, on se plie en deux pour quelque chose. Ben, Dieu, il s'est plié en deux pour réussir. Nous voyons aussi combien il est disposé à persévérer en attendant de réaliser son objectif. Dieu, il n'y a pas un calendrier. 20 ans, ça ne met pas de pression sur Dieu. Ça met de pression sur les hommes. Le temps met la pression sur nous, mais pas sur Dieu. Lui, il a tout son temps. Jacob, il a pris 20 ans pour se baisser la tête et se courber devant Dieu. Ben, Dieu, ce n'est pas un problème. Et Dieu va prendre le temps qu'il faut. Et malgré le fait que Jacob l'ignorait le plus souvent, Dieu a été jusqu'au bout avec son plan. C'est un encouragement pour nous. Et quelle que soit notre situation, et j'espère qu'il n'y a personne qui va partir ce matin en disant « Je suis trop mauvais pour Dieu. J'ai été trop mauvais. » Il n'y a pas. Ça n'existe pas. parce que ça serait de déclarer une faiblesse chez Dieu. Et il n'en a pas. Et deuxième encouragement que je trouve dans ce récit, c'est que Dieu, dans sa miséricorde, a conduit Jacob jusqu'au point où il est prêt à prier et à se rendre. Dieu a conduit, il a utilisé les circonstances pour arriver à Jacob, où il se trouvait Laban d'un côté, Ésaü de l'autre, et il ne pouvait que lever les yeux. Et Dieu, s'il le faut, il va le faire. Et parfois, on se trouve à plat, sur le dos, dans un lit, et on ne peut rien faire, et on ne peut que prier vers Dieu. Parfois, on se trouve dans des situations impossibles. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas la dureté de Dieu. On dit, Dieu, pourquoi ? Il dit, c'est parce que je t'aime. C'est parce que je t'aime. Si je ne t'aimais pas, je te laisserais faire. Aller où tu veux, devenir ce que tu veux. Mais je ne te laisse pas. Je t'aime. Dieu, pourquoi les autres y réussissent et moi j'arrive pas ? C'est parce que je t'aime. Les enfants des autres, ils font ce qu'ils veulent, mais mes enfants, je ne les lâche pas. Troisièmement, il dit, c'est à ce Jacob-là que Dieu donnera le nom d'Israël. Ça alors, c'est à lui qui donne le nom d'Israël, le vainqueur, un prince. Oui, c'est lui qui le donne. C'est Dieu qui, en inspirant les Écritures, a voulu être connu comme le Dieu de Jacob. Vous savez, les gens ont cru critiquer Jésus en lui disant « Oh, c'est l'ami des gens de mauvaise vie » et pour lui, il a pris ça comme un compliment. Ah, qu'on m'appelle l'ami des gens de mauvaise vie, eh bien ça, c'est ça que je veux. Il dit « Moi, Dieu ne se sent pas rabaissé en portant le titre de Dieu de Jacob ». Vous savez, les chrétiens, c'est pas toujours flatteur, Dieu. Les enfants de Dieu, c'est pas toujours. Et vous savez, sa gloire n'est nullement atténuée. C'est nous qui souffrons. Pas lui. On lui fait pas de mal. Lui, sa gloire reste intacte. C'est nous qui nous faisons du tort. Et puis, l'histoire de Jacob nous donne une idée de ce que ça veut dire quand Dieu dit « j'aime quelqu'un ». Il dit, c'est dans Malachie 2 et dans Romains 9, « j'ai aimé Jacob ». Il dit, c'est ça que ça veut dire quand je dis que j'aime quelqu'un, c'est que je reste avec lui. Et je reste avec lui jusqu'à ce qu'on obtienne les résultats. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et c'est peut-être l'amour que vous avez, que j'ai eu. Dieu a persévéré avec moi. Dans le monde, tant que tu m'intéresses, tant que tu m'apportes, tant que je trouve ta compagnie intéressante, eh bien, je t'aime. Dieu dit, non, parce que je t'aime, je fais, j'interviens, je protège, je garde, je ramène. Parce que je t'aime, c'est ça l'amour de Dieu. Et donc dans Jean 3,16, quand il dit Dieu a tant aimé le monde, ça, vous savez ce que ça veut dire ? Eh bien, il avait toutes les raisons pour détruire notre monde il y a longtemps. Et il aurait été juste en le faisant. Mais il dit, j'ai tant aimé le monde. C'est ça ce que veut dire le mot amour chez Dieu. Et nous pouvons trouver de la consolation, du secours, de l'encouragement. Nous pouvons baigner dans la pensée de l'amour de Dieu. Le Dieu de Jacob. Philippiens 1,6 nous dit, celui qui a commencé, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Parfois, on aimerait être rendu parfait un peu plus tôt. Peut-être ma femme voudrait que son mari soit rendu parfait un peu plus tôt. Mais il a dit, moi, ce que j'ai un plan, je ne suis pas pressé, ça sera fait quand j'aurai besoin que ça soit fait. Ce Dieu de Jacob, que peut-il faire pour vous? Eh bien, relisons le psaume 46. Maintenant, avec près tout ce qu'on a dit, relisons le psaume 46. Si je suis un Jacob, eh bien, ce psaume, c'est mon psaume. Psaume 46. Je suis un Jacob, je suis en train de réciter, de chanter ce psaume. Je suis un Jacob. Dieu est pour moi un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au jour de la terre, jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, mais ce que cela a voulu faire ce matin. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Vous remarquez que les deux fois où il dit, il fait référence au Dieu de Jacob, à la fin du vers, à la fin de la phrase, c'est toujours, il marque une pause. Quand on parle du Dieu de Jacob, il faut s'arrêter, méditer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il peut être mon Dieu, et il veut être mon Dieu. Je ne sais pas où chacun se trouve ce matin, à quelle étape de la vie de Jacob vous pouvez vous situer. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a été le Dieu de Jacob depuis le début jusqu'à la fin, même si Jacob ne le reconnaissait pas toujours. Et il veut être le Dieu des Jacob, le Dieu de tous ceux qui ressemblent à Jacob, peu importe le degré. Dieu, ce qu'il a fait pour Jacob, il peut le faire pour moi. Si vous n'avez jamais rencontré Dieu, vous n'êtes jamais venu vers Dieu, vous savez que dans quelque chose dans votre cœur vous dit que Dieu existe quelque part, mais vous ne savez pas comment il est, eh bien écoutez, venez à la croix, parce que c'est là qu'il va vous dire pour la première fois combien il vous aime. Et méditez là à la croix. Il dit, il est mort. Il n'est pas mort uniquement pour le brigand qui se trouvait à côté de lui. Il est mort pour tous les autres Jacob du monde. Si peut-être dans votre vie, quelque part, il y a eu un trajet, vous avez eu un entretien avec Dieu, un moment où vous dites, tiens, oui, on s'est croisé. Mais ensuite, vous avez continué votre chemin et il n'y a eu rien du tout. Eh bien, sachez qu'il n'a pas abandonné. Il y a eu un moment où vous avez fait une promesse et puis finalement, il attend toujours l'accomplissement. Il attend toujours. Peut-être qu'il vous a déjà brisé et c'est là la traversée du Jabbok, c'est la lutte, il est en train d'essayer. Il lâche pas, hein, il lâche pas, jusqu'à ce qu'on commence à boiter. Ou bien, il est là jusqu'à ce qu'on arrive dans El Bethel, où on demeure dans la maison de Dieu. Il est avec Jacob, il reste avec lui jusqu'au moment où il est en mesure de bénir le Pharaon. Et aux yeux de Dieu, il est au-dessus des hommes. Oh, notre Dieu, le Dieu de Jacob est merveilleux. Prions. Père Céleste, nous avons médité sur un aspect de ta personne que tu as appelé toi-même Dieu de Jacob. Et Seigneur, on se retrouve là. On a besoin du Dieu de Jacob. Et Seigneur, tu connais chaque cœur. Et là, tu as parlé à chaque cœur. Ton esprit est avec chacun. Et Seigneur, veuille parler à chacun selon la situation où il se trouve aujourd'hui. Seigneur, je crois qu'on a compris ce que tu avais à dire. Maintenant, je laisse ton esprit avec chacun et continue ton œuvre. Je l'implore au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen.